des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Va-t-il y avoir une deuxième vague au Canada? Nous allons parler avec Mark Hamilton. Comme j'ai toujours envie de mes... Non, c'est l'autre. Microbiologiste et président du groupe Eurofin Environnex. Salut Marc.
Oui, salut Richard, ça va bien?
Très bien. Écoute, toi, t'es un scientifique. Combien d'années d'études en microbiologie? Là, c'est quand même, c'est long, là.
C'est 6 ans d'études spécifiques là-dedans. Là. C'est assez long.
OK, 6 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, avant de parler de la deuxième vague, des gens qui s'improvisent spécialistes en virus parce qu'ils sont allés sur Internet, puis qui est les anti-masques et tout ça, là. Tu penses quoi de tout ça?
Ben, c'est sûr que moi, je trouve ça très difficile parce que ça nuit beaucoup à la science, ça crée de la désinformation. Ça crée vraiment des débats incongruents avec des théories farfelues qui amènent les gens à réfléchir dans un cadre non scientifique et qui amènent justement à des espèces de conspirations et de se virer le dos à la science qui, elle, à quelque part, oui, la science, c'est comme des mathématiques, c'est pas une science absolue, on n'a pas toujours raison, mais il reste que l'écart entre ce que nous, on pense versus ce que les gens peuvent conspirer. Ça fait de la désinformation et ce qui crée de la délinquance, à mon avis aussi.
Oui, tout à fait. Non, c'est totalement déprimant, là. Lucie Laurier qui fait quasiment la leçon aux scientifiques. Là, tu te dis, coudonc, t'as étudié en épidémiologie, toi, t'as étudié en microbiologie, en tout cas. La deuxième vague, est-ce qu'il va en avoir une ou pas?
Ben, la deuxième vague, c'est sûr que si on y va au niveau du Canada, si on regarde au Canada, il n'y a aucun signe au Canada qui inspire une deuxième vague. On regarde les données, 240 cas hier. Donc, on est vraiment loin là, du 20 par million. Là. On est très, très bas de ça. Là. Si on parle dans un milieu canadien, c'est pas de décès. Donc, c'est vraiment des foyers facilement contrôlables. Le problème qu'on a, c'est que nous, au Québec, on représente plus de 50% des cas positifs du Canada. Donc, le Québec reste en quelque part, ben, c'est pas des grosses statistiques, tu vas me dire, là, 160, 200 cas par jour au Québec par rapport au reste du Canada. Mais le problème, c'est que la proportion est vraiment concentrée au Québec et c'est ici qu'il faut éviter, comme tu le sais, le pic qu'on a eu le 27 avril dernier, où est-ce qu'on a été chercher plus de 800 cas par jour. Ben, ça a commencé tranquillement à coup de 150, 200, 250, puis là, ça a monté exponentiellement. Et c'est ça que le gouvernement a peur, parce que nous, on se comporte pas au Canada. Sur nous-mêmes, on se dit, oups, 90% des Québécois n'ont pas attrapé le COVID. Il y a encore des gens qui sont aptes à l'attraper facilement. Donc, faut agir rapidement. On veut pas être la risée du Canada, là, qui a rien qu'ici que ça se passe la COVID. Donc, c'est pour ça que le gouvernement se dit, au Canada, vous avez vos problèmes. Nous, au Québec, on veut pas que ça dégénère.
Mais écoute, quand on dit le 100 cas par jour, 200 cas par jour, 300 cas par jour, bien sûr, ça frappe l'imaginaire, mais on peut se poser la question, OK, mais combien de ces cas-là sont graves? Combien de ces cas-là sont inquiétants et dangereux? Parce que il y a des gens, on le sait, Antoine Robitaille, qui est ici un collègue de Cube Radio, qui a attrapé la COVID, il s'en est très bien sorti. C'était comme une grosse grippe, c'était un peu désagréable, mais jamais sa vie était en danger. Donc, tu sais, faut voir aussi, là, il y a combien de cas, là, 300 cas, 200 cas, OK, mais combien sont graves? Combien sont mortels là-dedans?
Ben, écoute, faut penser là, que la proportion, elle a changé. Là, par rapport à ce qu'on quand on regarde la proportion des gens, l'âge des gens qui ont la COVID, quand on vient au mois de mars, on disait que ceux qui avaient la COVID, c'était beaucoup les 50 ans et plus. Rappelez-vous, c'est surtout cette clientèle-là qui était mortelle pour eux. Aujourd'hui, ça revirait de bord. Aujourd'hui, les personnes âgées, c'est ceux qui ont le moins la COVID et c'est le personnel actif, là, les 20 à 50 ans qui représentent 43% des gens qui ont la COVID. Donc, c'est la population qui est la moins à risque à développer des complications qui peuvent mener à un décès ou remplir les hôpitaux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de dire dans le peu de personnes qui l'attrapent au Québec, c'est des gens qui sont capables de s'en sortir de par leurs conditions physiques. Contrairement à ce qu'on a vécu au mois de mars. Donc, on a inversé les pôles en termes de gens à risque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans banaliser le cas, on a moins de gens à risque qui peuvent arriver à créer des complications, des décès. Ça, c'est la bonne nouvelle dans l'équation.
OK. Mais tant qu'à avoir des gens qui ont la COVID, on préfère que ce soit des gens en forme, qui soient jeunes, qui sont capables de passer à travers plutôt que des gens qui sont vulnérables.
Ben absolument, absolument, parce qu'on sait que les jeunes, c'est un virus qui est vraiment un peu comme n'importe quel virus respiratoire. Toutes les personnes âgées, ceux qui ont des facteurs de comorbidité, c'est vraiment eux les plus à risque.
Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça, de séparer ça en régions? Ça fait longtemps que la France le fait, là, avec les différentes couleurs et tout ça, parce que là, avant, on avait des mesures mur à mur. C'est-à-dire que tu habites à Rouyn-Noranda, en Gaspésie, en Outaouais, tu devais respecter les mêmes consignes. Là, on va séparer ça en régions, selon moi, enfin. C'est une bonne idée.
C'est une excellente idée. Je crois que même la docteur Tam l'a salué, l'a dit, écoute, je salue l'initiative du Québec de vouloir séparer les régions, ou du moins les séparer, les identifier par code de couleur pour un peu responsabiliser chacune des régions. Je regardais hier Régis Labeaume qui faisait, suite à que je suis que la ville de Québec était jaune, il a pris la parole, il a dit, écoutez, là, je suis un peu déçu de mes concitoyens. Ouais, est-ce qu'on a toujours été l'exemple au Québec? Au Québec, à l'époque, quand on était l'exemple à suivre, c'était Montréal. Et là, c'est rendu Québec, en guillemets, l'épicentre. Fait que, tu sais, ça va créer une responsabilité, une imputabilité des gens. Et les gens, quand on se compare aux autres, des fois, on se console, des fois, on se fait taper ses doigts. Mais je pense que c'est une bonne initiative d'enseignement sans punir, de responsabiliser les gens.
Écoute, puis en plus, tu t'identifies beaucoup plus à ta ville, à ta région, plutôt qu'à ta province, où c'est très grand, puis c'est très abstrait. Il va quasiment avoir une saine compétition. Là, on se souvient du temps où il y avait une compétition à Québec et Montréal, au hockey, entre les Nordiques et les Canadiens. Là. Puis c'était quelle équipe avait le plus de joueurs francophones. Puis étant donné qu'il y avait beaucoup de joueurs francophones chez les Nordiques, ça faisait de la pression auprès des Canadiens pour embaucher des joueurs francophones. Bref, mais tu sais, c'est vrai, là, c'est une métaphore, là, mais tu sais, les compétitions entre les régions, les gens vont dire, ben regarde, Montréal, si on est dans le trou, ça va pas bien, nous autres, ça va bien dans notre région.
C'est ce qu'on appelle une compétition saine, axée sur la responsabilité et la conscientisation. Écoute, je pense que c'est mieux ça que d'arriver puis de faire le couperet et de dire, écoutez, on se confine, on reste à la maison puis on attend ce qui se passe. Donc, je pense que le gouvernement, c'est une sage décision qui ne fait pas mal, mais qui conscientise les gens. Mais comme tu dis, c'est bien. Ça va faire jaser les gérants d'estrade.
Ben oui.
Hey, gars, moi, chez nous, je suis bien. Puis, regarde, je suis chez nous, les statistiques baissent et on se compare. Mais je pense que je trouve ça intelligent comme décision. Et ça va faire réagir les gens. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais à mon avis, ça va être positif, là. Dans les prochaines semaines.
Et sans être optimiste, là, ça m'étonnerait que je suis pas un expert, mais je te pose la question, ça m'étonnerait que la deuxième vague soit pire que la première, parce que on a quand même appris depuis le temps. Là, ça fait 7 mois qu'on est là-dedans, ce marasme-là. On a appris de nos erreurs. J'imagine que là, on est un peu plus préparé.
Effectivement, on connaît le virus, on connaît son mode de propagation, on connaît comment traiter les gens lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, aux hôpitaux. Les types de médications, on a mûri beaucoup là-dessus. On sait comment l'éviter. Si on fait un parallèle avec la grippe espagnole il y a 100 ans passé, la deuxième vague a été moins pire que la première, parce que justement, pour un peu pour la même raison, la deuxième vague est arrivée 3 mois après la première. Ce qui se passe un peu présentement, on est comme 3 mois à la suite de la descente de la première vague. Et la deuxième vague était beaucoup moins pire que la première, là, la grippe espagnole, parce que les gens, entre autres, avaient appris, hein, même si eux, dans ce temps-là, n'avaient pas les outils qu'on avait, ont appris, se sont protégés, ont gardé leur distance. Donc, c'est un peu ça qu'on souhaite pour la deuxième vague. Et une des raisons, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, il dit, écoute, Marc, il dit, peux-tu expliquer pourquoi qu'au Québec, on est toujours, en quelque part, celui-là qui représente 50% des cas du Canada. Et puis, moi, je leur ai dit, écoutez, c'est une théorie, là, c'est mon opinion, là, je leur ai dit, ben, écoutez, au-delà de la lassitude, là, qu'on entend parler des gens qui disent, oh, on est tannés, on a fait nos devoirs, Mais au Québec, là, on est des gens qui aiment socialiser. Le facteur social au Québec est beaucoup plus fort qu'ailleurs au Canada. Tu sais, au Québec, on aime ça, les chaleureux, les parties de famille, on invite des gens, on se serre la main, on
ben
se
oui.
Ça nous manque beaucoup. C'est une culture qui est profondément française, qu'on a appris nos ancêtres, qui sont comme ça.
Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une culture latine. Puis tu sais, il y a des gens qui disent on devrait appliquer la leçon de Suède, le modèle de Suède. Les autres, ils n'ont pas déconfiné, ils n'ont pas confiné, etc. On devrait l'appliquer au Québec. Mais comme j'ai écrit dans une chronique, je dis le problème, c'est que la différence entre la Suède et le Québec, c'est qu'en Suède, il y a des Suédois. Et les Suédois sont très disciplinés. J'ai un de mes bons amis qui m'a écrit. Lui, il a travaillé pour une compagnie en Suède. Il a fait 120 voyages. Il est allé 120 fois en Suède. Puis il dit, t'as tellement raison, Richard. Il dit, là-bas, ils sont extrêmement disciplinés. C'est pas comme ici. On a un côté cow-boy ici, là.
Ben oui, on est beaucoup plus cosmopolite, et d'un, mais notre culture qui arrive des Français, c'est un peu le même. Hein? On aime se voisiner, on aime jaser, se coller, se donner la bille. Ça fait partie... Je sais qu'on ne peut plus le faire, mais ça fait partie de nos mœurs d'avoir un facteur social. Juste un exemple. Moi, je vais souvent en Ontario, j'ai des bureaux en Ontario, et lorsqu'on arrive en Ontario, c'est pas la même approche quand t'as avec un client, que t'as avec un employé ou que t'as avec quelqu'un que tu connais. Il y a comme une barrière professionnelle au-delà là, des coutumes culturelles que ici on va rencontrer, c'est la grosse serrée de main, salut, comment ça va, hey, je t'invite, on prend une bière à soir, tu sais. C'est pas pareil. Ici, ça nous manque beaucoup. Puis là, on voit là, qu'est-ce qui crée ces petites éclosions-là. Là. Si ça vient plus fort que nous autres. Il fait beau, les vacances, on a eu des belles vacances, il fait chaud, la COVID est comme derrière nous, en guillemets. Et là, à ce moment-là, on commence à créer des excès. Ce qu'ailleurs, comme tu dis, en Suède, c'est très discipliné. Puis probablement qu'ailleurs au Canada, ils sont peut-être plus disciplinés, à mon avis, qu'ici, en termes de rassemblement puis de vouloir
rencontrer. Écoute, comment tu fais pour vider une piscine remplie de monde, une piscine municipale remplie de monde en Suède? Tout ce que tu as à leur dire, c'est « Pouvez-vous sortir de la piscine, s'il vous plaît? »
Ils vont
respecter les consignes. Ils sont comme ça, les Suédois. Merci beaucoup, Marc Hamilton. Bonne journée, microbiologiste, président du groupe Urofin Environex. Merci.